Nous fêtons aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le troisième mystère joyeux de notre chapelet. Et le fruit de ce mystère, c'est l'esprit de pauvreté. Dans l'Antiquité païenne, cette vertu de l'esprit de pauvreté était quasiment inconnue, tout comme les vertus de la virginité et de l'humilité. Le monde étant redevenu païen aujourd'hui, l'esprit de pauvreté est de plus en plus méconnu et méprisé. Donc il est d'autant plus important de le connaître, de l'aimer, de le demander à Dieu et de le pratiquer. Et d'abord, qu'est-ce que l'esprit de pauvreté? Alors nous pouvons commencer par distinguer deux sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté effective. La pauvreté effective, c'est la pauvreté réelle, de ne pas être riche, de ne pas avoir des richesses, éprouver un gêne à se procurer des biens utiles et même nécessaires à la vie. En soi, cette pauvreté effective n'est ni bonne ni mauvaise. Mais ensuite, il y a la pauvreté affective. La pauvreté affective, c'est le détachement des biens de ce monde. On dit pauvreté affective parce que nos affections, ce sont nos désirs, notre amour. Et avec cette pauvreté affective, nos affections sont libres de toute attache matérielle. Donc ce n'est pas forcément l'absence des richesses, mais l'absence du désir immodéré de les acquérir ou de les conserver. C'est l'esprit de pauvreté. Et cela, c'est toujours bien. Saint Bernard dit que ce n'est pas la pauvreté elle-même qui est une vertu, mais l'amour de la pauvreté. Un homme riche, mais qui est détaché de ses biens, comme Abraham dans l'Ancien Testament, vaut mieux aux yeux de Dieu qu'un pauvre avide de s'enrichir. Mais s'il est possible pour un homme riche d'avoir la pauvreté affective, ce détachement, il est quand même plus difficile. Notre Seigneur lui-même compare les richesses à des épines qui étouffent la jeune plante de la vertu. Il dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Et puis, nous connaissons tous le jeune homme riche dans l'Évangile que notre Seigneur a invité à le suivre et qui est parti, qui s'en est allé triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il ne voulait pas y renoncer. Donc une certaine pauvreté réelle aide beaucoup à avoir l'esprit de pauvreté. Et c'est pourquoi Dieu nous oblige quelquefois de nous séparer de quelques biens pour nous exercer à la sainte indifférence à l'égard des choses matérielles. Il nous oblige parce qu'il sait que souvent nous n'avons pas la force de le faire par nous-mêmes. Ça peut être une panne d'électricité qui nous prive de notre ordinateur pendant une journée, la perte d'une voiture ou de quelque objet, ou même la perte d'un emploi. Ça peut être une grâce si cet emploi est un danger pour notre âme. Et d'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, le plus souvent, par le fait même de vouloir vivre chrétiennement, on se condamne à une vie pauvre. Il y a des écoles à payer et même certaines activités professionnelles ne sont plus honnêtes par les exercer aujourd'hui. On n'a pas à chercher loin un peu de pauvreté réelle, mais il s'agit de l'aimer, de remercier Dieu de nous aider à tourner le regard vers lui. Car encore une fois, une certaine mesure de bien temporel est nécessaire pour vivre vertueusement, mais l'abondance est indéniablement un danger pour l'âme. Saint Bonaventure compare les biens de ce monde à un glue qui colle aux doigts et qui empêche les doigts de pouvoir travailler. Les biens temporels collent à notre âme et la rendent moins apte à travailler à notre salut. Donc l'esprit de pauvreté que notre Seigneur veut nous apprendre en cette fête de Noël est un détachement des choses de la terre appuyé sur la pratique de la pauvreté réelle et volontaire. Alors, non pas forcément un renoncement aux droits de propriété comme les religieux, mais le retranchement de ce qui est superflu, de bannir de notre esprit le souci d'amasser les richesses pour être à l'abri de toute possibilité d'une privation quelconque. Un père franciscain, le père d'Anvaux, les franciscains sont un peu les experts dans la pauvreté, lui, il décrit l'esprit chrétien ainsi. La simplicité dans la vie et dans l'usage des choses, la sage modération dans ses désirs et ses ambitions, la sainte humilité dans ses pensées et sa conduite, la pauvreté dans son détachement des biens et des richesses. L'esprit de pauvreté ainsi compris est la première condition de notre union à Dieu. C'est la première chose qu'on veut voir, on va voir, c'est la première condition de notre union à Dieu. La première béatitude prononcée par notre Seigneur, c'est « Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Et saint Thomas explique pourquoi notre Seigneur commence par là. L'homme est corps et âme. Il est comme à cheval sur deux mondes. Le monde corporel, matériel, avec son corps, ce corps qu'on peut toucher, avec le monde des objets. Et puis le monde spirituel, c'est le monde où évolue notre esprit. Mais plus on s'attache aux choses d'en bas, dans ce monde matériel, plus on s'éloigne des choses d'en haut, des biens spirituels. Et vice-versa, c'est plus on s'attache aux biens spirituels, plus on se dégage un peu de ce monde matériel. Donc pour tendre à la perfection de la charité, il faut commencer par mépriser les choses de la terre. Il est impossible de s'élever vers le bon Dieu tant que nos pensées se dirigent vers la terre, vers en bas. Notre Seigneur a dit, là où est votre trésor, là est votre cœur. Aussi, en tant qu'elle est la gardienne de l'humilité, la pauvreté est à la base de la perfection chrétienne. À la suite des richesses, entre facilement dans notre esprit l'estime de soi, le désir d'être honoré, l'orgueil et l'ambition. Avouez-le, à vous arriver au bureau dans une voiture neuve et très belle, c'est une tentation d'orgueil. Et en revanche, ne pas être aussi à la mode que les autres, ne pas avoir le dernier gadget que tous les autres ont déjà eu, cela nous aide à rester humbles. Et puis enfin, toute vie intérieure qui ne se repose pas sur un peu de mortification est pure illusion. L'esprit de pauvreté avec ses incommodités est la première mortification à faire. Avant de songer à des pratiques ascétiques supplémentaires, on peut commencer par la simplicité dans le vêtement, la nourriture et les loisirs. Donc voilà, cet esprit de pauvreté est la première condition de notre union à Dieu. Mais aussi, Il fait grandir en nous les trois vertus théologales. L'esprit de pauvreté est d'abord un esprit de foi. Il fait grandir la foi en nos âmes. Parce qu'il faut la foi pour vouloir s'éloigner des biens de ce monde, pour chercher les biens spirituels et invisibles, pour s'unir plus étroitement à un Dieu que nous ne voyons pas. L'esprit de pauvreté nous aide à faire cet acte de foi, à dire « Je crois fermement qu'il y a une récompense au ciel qui est mieux pour moi que d'avoir telle ou telle chose qui me plaît. » Et puis l'esprit de pauvreté fortifie l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, c'est la vertu qui nous fait mettre notre confiance non pas en nous-mêmes, en des moyens humains, l'argent ou nos amis, mais uniquement en Dieu. Un esprit de pauvreté, jour après jour, dans les petites choses, nous habitue à ne pas recourir tout le temps à des moyens humains pour avoir une vie de facilité. Et donc, tout naturellement, l'espérance grandit avec la pratique de l'esprit de pauvreté. Cette espérance devient l'âme de l'esprit de pauvreté. Et puis la troisième vertu théologale, la charité. L'esprit de pauvreté nous fait progresser dans la charité. Dans la charité envers le bon Dieu, comme nous avons dit tout à l'heure, plus on s'éloigne des biens de la terre, plus on s'unit à Dieu. La pauvreté est un véritable dressage qui nous donne comme le réflexe de préférer les biens spirituels aux biens matériels et d'aimer Dieu pour lui-même et non pas pour ses dons. Comme nous disons dans l'acte de charité, mon Dieu, je vous aime, au-dessus toutes choses, par-dessus toutes choses, au-dessus des choses matérielles, plus que tout l'univers. Et puis la charité envers le prochain. La pratique de la pauvreté unit les hommes. Et là, saint Thomas explique aussi que la recherche des biens matériels divise les hommes, parce que ces biens ne peuvent pas être possédés simultanément et intégralement par plusieurs. D'où l'envie, les querelles, les divisions. Mais au contraire, les biens spirituels. Plus on partage des biens spirituels avec d'autres, plus on les possède soi-même. Et l'illustration la plus parfaite de cette vérité, ce sont des communautés religieuses, là où il n'y a pas de propriété privée. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où les hommes sont plus unis. Mais la sainte pauvreté peut faire de la maison aussi une école de charité fraternelle, de don de soi et de générosité. Elle réprime l'égoïsme. Il y a une petite histoire dans les mémoires de Sœur Lucie de Fatima qui illustre ça très bien. Elle raconte une année, c'était au printemps, un des enfants avait vu sur l'arbre, sur le figuier, la première figue de l'année. Et cette figue avait l'apparence très délicieuse. Mais l'enfant n'a pas mangé lui-même. Il l'a apporté à la maison pour montrer à la famille. Et puis ils ont coupé la figue en plusieurs petits morceaux pour que chacun puisse goûter la première figue de l'année. Un tel geste n'est possible que dans une maison où on a l'habitude de se priver pour le bien commun. Et puis le détachement des biens matériels unit surtout les époux. Quelquefois, on entend des réflexions des couples âgés et qui remarquent que l'époque la plus heureuse de leur foyer, c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'argent. mais il y avait l'un l'autre. Alors, quel contraste! Cet esprit de pauvreté, humble et effacé, est très beau. C'est très beau de le contempler dans la crèche, mais quel contraste avec la cour d'Hérode à Jérusalem, où ce n'est qu'orgueil, ambition et ostentation. Quel contraste aussi avec le pape François, qui a pris justement le nom du Poverello d'Assise. Quel contraste entre la pauvreté simple, effacée et vraie de la crèche et cette pauvreté médiatique qui n'est souvent que mensonge. Par exemple, après son élection, François a refusé de s'installer dans les appartements pontificaux du Vatican, jugés trop luxueux. Il est resté donc à la résidence Sainte-Marthe, où il logeait avant le conclave. Et les médias ont beaucoup vanté ce geste de simplicité d'un pape qui se veut proche du peuple et qui veut éliminer le faste dispendieux. Mais il faut savoir que non seulement la maison Sainte-Marthe est presque aussi luxueuse que les appartements pontificaux, mais cet arrangement coûte plus cher, justement, car il a fallu des travaux coûteux et très compliqués pour assurer la sécurité dans la maison. Pour avoir de la place, il fallait chasser d'autres locataires qui payaient. Il faut mobiliser la garde pontificale tous les jours pour conduire le pape depuis la maison Sainte-Marthe jusqu'aux appartements de cérémonie du pape, au deuxième étage du palais apostolique du Vatican, pour ses divers travaux et des audiences officielles. En plus, il faut ajouter encore le coût d'entretenir les bâtiments et la sécurité aux appartements pontificaux et à Castel Gandolfo, qu'on doit continuer parce qu'il faut continuer de le faire, même si le pape n'y loge plus. Nous pourrions parler aussi des dépenses occasionnées par de nombreuses fêtes et rassemblements, comme les JMJ, qui ont coûté plus d'une centaine de millions d'euros, ou bien le rassemblement à la place Saint-Pierre le 17 décembre, qui a réuni plus de 3000 danseurs de tango pour fêter l'anniversaire de François. Chers fidèles, cherchons à vivre dans un vrai esprit de pauvreté. Plusieurs d'entre vous, c'est un fait, le font déjà, discrètement, pour l'amour de Dieu ou pour suivre sa loi. Et nous vous félicitons, nous vous encourageons à continuer. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et puis pour nous tous, pendant notre action de grâce à cette messe et pendant tout le temps de Noël, réfléchissons à des moyens pour mieux pratiquer la pauvreté chrétienne en réparation de nos péchés. Il y a 1000 occasions pour le faire dans la journée. Ça peut être ne pas ouvrir les robinets à fond pour ne pas gaspiller de l'eau, mettre un peu moins de chauffage ou moins d'eau chaude. Mais comme c'est le temps de Noël et le monde ne pense qu'à acheter et à consommer, examinons-nous surtout sur ce point-là, les dépenses inutiles. Avant chaque achat, il faut se poser loyalement devant Dieu cette question. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que les enfants ont besoin de temps de jouer? Est-ce que ce gadget électronique est vraiment nécessaire pour mon travail? Est-ce que ce voyage sera bien pour mon âme? Avant de remplacer un objet ou un vêtement, il faut voir si l'ancien ne peut pas encore servir quand même. En un mot, ayons une vie simple. Parce que dans la pratique, l'esprit de pauvreté se traduit par la simplicité. Si le bon Dieu vous a favorisé matériellement, et vous n'êtes pas poussé par la nécessité de pratiquer la pauvreté, alors les économies que vous faites pourraient servir à aider ceux qui ont plus de peine, par exemple pour des bourses scolaires. Et si vous devez pratiquer la pauvreté par la force des choses, il s'agit maintenant d'aimer cette pauvreté par amour pour Jésus pauvre. En demandant ces grâces à l'enfant Jésus dans la crèche, et faisons nôtre cette belle prière du livre des Proverbes. Seigneur, ne me donnez ni l'extrême pauvreté ni la richesse. Accordez-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, de peur qu'étant rassasié, je ne sois tenté de vous méconnaître et de dire qui est le Seigneur, et que le besoin ne me pousse à faire des injustices. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.